Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Das sind die Sandinbelhaus
hier.
France Inter, le 18-20, Christelle Rebière.
Un jour dans le monde, ce soir, un jour au Proche-Orient où le conflit menace de s'étendre après les frappes iraniennes dans la nuit de samedi à dimanche sur Israël.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice, l'inquiétude du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors, une désescalade est-elle possible? Pour en parler, deux invités à la suite. Alona Fischer-Kam, ambassadrice et chargée d'affaires d'Israël en France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous poursuivrons ensuite cette conversation avec le docteur en géopolitique, Frédéric Ancel. Alona Fischer-Kam, Israël peut-il ne pas riposter?
Ce serait difficile. Je me demande s'il y a un pays dans le monde qui pourrait ne pas riposter au cas d'une attaque pareille de plus que 300 drones et missiles balistiques et missiles de croisière. Il s'agit vraiment d'une attaque sans précédent. Il s'agit d'une violation de la loi internationale, de violation de la souveraineté israélienne. Donc je le vois avec beaucoup de difficultés. La possibilité de ne pas riposter.
Mais le risque, évidemment, c'est l'escalade. Donc, comment jauger la riposte? On a senti que c'était très compliqué lors de la réunion du cabinet de guerre hier. Il y a d'ailleurs une nouvelle réunion en ce moment même. Donc, la question, c'est surtout, comment riposter?
Il faut être très prudent et c'est pourquoi il y a des débats dans le cabinet, au sein du cabinet, qui vont être très longs. À mon avis, pour trouver un moyen de riposter. Et comme notre gouvernement avait dit, tout d'abord, l'Iran devrait payer un prix et pour cette attaque sans précédent. Et qu'Israël...
Payer un prix, qu'est-ce que ça veut dire? À la même hauteur?
Voilà, donc,
ça veut dire qu'il va y avoir des centaines de missiles et de drones que les Israéliens vont lancer sur l'Iran?
Ça, on n'a pas dit. Comme vous le savez bien, il n'y avait aucun propos, aucune déclaration de la part d'un dirigeant, qu'il soit militaire ou civil, en Israël concernant le riposte. Certes, notre intention, c'est de ne pas avoir une escalade, de ne pas avoir un embrasement régional. Ce n'est pas de notre intérêt. En même temps, on a été attaqué et d'une manière violente. Et le fait qu'il n'y avait pas trop de victimes, il y avait quand même plus de 10 personnes blessées, tous civils, et y compris une fillette de 7 ans. Et c'est grâce à la défense aérienne israélienne, c'est pas grâce à une sorte de retenue.
C'est une défense. Elle a été extrêmement efficace, puisque 99% des drones et des missiles, en tout cas c'est ce que dit votre pays, ont été neutralisés, interceptés. C'est une victoire, disait hier Joe Biden. C'est une victoire pour vous, Israël, une victoire défensive. Ce qui sous-entend, restons-en là. Et on sent bien aussi que l'Iran veut passer à autre chose. Est-ce qu'on peut en rester là?
De nouveau, ce serait très difficile. Bien sûr, c'est une victoire technologique dans le sens que tout a bien marché. Il y avait, on a intercepté plus que 99% des missiles et des drones. Et bien sûr, avec l'aide, le soutien et de la communauté internationale, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Et en même temps, on peut pas être tout le temps sous le chantage de l'Iran. Vous pourriez imaginer qu'une attaque pareille ou une menace à une attaque pareille commencerait à se répéter d'une manière quotidienne ou mensuelle. Ce qui va se passer. Donc, il faut mettre fin à cette menace.
Bien sûr, mais venant de
l'Iran. Et l'Iran, c'est l'idéologie de l'Iran de faire détruire l'État d'Israël. Donc, c'est pas une chose qui s'est passé une seule nuit et voilà, c'est terminé.
Donc une riposte au risque de perdre le soutien de vos principaux alliés. Alors, les États-Unis ont rappelé encore leur soutien inébranlable aujourd'hui, mais c'est pas si simple. On sait bien qu'il va y avoir une élection américaine dans les prochains mois. Et puis, les États-Unis sont aussi critiques vis-à-vis de la famine à Gaza. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre aussi, par exemple, le soutien de la Grande-Bretagne ou le soutien de la France?
Le soutien de la communauté internationale est important et je crois crois que ce soutien doit continuer. Mais il peut recevoir beaucoup de formes, je dirais, parce que maintenant, je crois que il faut commencer, par exemple, à penser à des sanctions. Il n'y avait jamais des sanctions sur l'industrie des missiles.
Oui.
Et Israël a averti depuis des années du danger venant des missiles iraniens qui peuvent aboutir pas seulement à Israël, ils peuvent arriver à 5000 kilomètres, pas seulement à 2000 kilomètres. Donc c'est une menace permanente qui existe. Peut-être c'est le temps que cette coalition qui a été créée, pas seulement avec des pays occidentaux, aussi
des pays arabes,
qui se sentent aussi menacés. Ils ne l'ont pas fait pour la défense d'Israël. Ils l'ont fait pour leur propre défense, parce que c'est aussi une menace contre eux. Donc peut-être c'est le moment de voir aussi quelles sont les mesures diplomatiques qu'on peut prendre pour freiner l'Iran. Et à mon avis, il y a pas mal de choses qu'on peut considérer.
Tout est parti de ce qui s'est passé le 1er avril, un tir de missile contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran en Syrie. Parmi les victimes, il y avait le général Zaidi, commandant en Syrie et au Liban des forces Al-Quds, cette unité d'élite basée à l'étranger des gardiens de la Révolution. C'était un personnage important. Le tir a été attribué à Israël. Votre pays en est-il à l'origine ?
Tout d'abord, c'est une attaque attribuée à Israël. Elle n'a jamais été revendiquée par Israël. Mais une toute petite précision, il ne s'agit pas du consulat, il s'agit d'un annexe.
D'une annexe. De l'ambassade.
Et qui n'est pas sous l'égide diplomatique. Et dans lequel, et ce qu'on avait ciblé, c'est pas le bâtiment, bien sûr. Ce sont les terroristes qui étaient dedans. Et c'est bien évident, ce sont eux et le cible et de l'attaque attribuée à Israël.
Et pourquoi Israël ne veut pas revendiquer cette attaque ? Vous avez dit « on a » tout à l'heure. C'était un lapsus ?
Parce que depuis des années, on garde une certaine ambiguïté. Et je dirais, je ne vois aucune raison de revendiquer. Donc c'est une chose qui est attribuée à Israël. C'est une attaque qui est attribuée à Israël.
Pourquoi cette attaque iranienne maintenant et de manière frontale, alors que d'habitude l'Iran utilise le Hezbollah libanais ou encore les rebelles houthis du Yémen ? Parce que Israël est affaibli dans la guerre à Gaza aujourd'hui ?
Je ne crois pas. Et c'est vrai que le conflit entre l'Iran et Israël, et je dirais même entre le régime iranien, parce qu'avec l'Iran, on n'a aucun conflit. C'est le régime qui veut détruire l'État d'Israël et a commencé depuis 79. C'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est la stratégie de l'Iran de détruire l'État d'Israël. Et c'est même une obsession et de détruire l'État d'Israël. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils préféraient le faire à travers de ce qu'on appelle des proxys, des alliés qui sont une sorte de marionnette, si on peut dire.
Le proxy pour la proximité. Hein.
Voilà. Et qui sont sur les frontières d'Israël, parce que l'Iran est assez loin d'Israël. Donc pour nuire aux intérêts d'Israël et pour nuire à la sécurité d'Israël, il vaut mieux avoir des proxys. Donc on a le Hezbollah, et on a le Hamas, et on a le Houthi. Et maintenant, c'est une décision prise par l'Iran d'attaquer directement Israël. Et bien sûr, c'est un risque qu'ils prennent, un risque tout d'abord d'une riposte et deuxièmement d'un embrasement régional. Mais pour nous, l'Iran en tout cas était toujours derrière les coulisses et derrière tous les attaques qu'Israël a subies depuis longtemps.
Une dernière question, Israël a lancé des dizaines de frappes sur la bande de Gaza aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie de votre riposte et est-ce que ça renforce votre détermination vis-à-vis du Hamas ?
Je crois que ce qui se passe à Gaza n'a rien à voir avec... Bien sûr, il a à voir avec ce qui se passe avec l'Iran. Il y a beaucoup de choses en commun entre les deux. Mais entre-temps, nous avons un front différent, qui est le front de Gaza. Et nous avons encore 133 otages en main du Hamas. Nous avons encore le Hamas au pouvoir. Nous avons encore le dispositif militaire du Hamas. Nous avons encore la menace du Hamas à la population du sud d'Israël. Donc, nous avons encore des objectifs à atteindre et à Gaza.
Merci infiniment. Merci Alona Fischer-Kam d'être passée par France Inter. Je rappelle que vous êtes ambassadrice et chargée d'affaires d'Israël en France. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po. Comment faire redescendre la pression aujourd'hui ?
Via les États-Unis, dont beaucoup d'observateurs très paresseux ces dernières années considéraient qu'ils avaient disparu du Moyen-Orient, en tout cas comme grande puissance clé. Or, on voit bien que les Américains, dans cette séquence générale, depuis au moins le grand pogrom du Hamas perpétré le 7 octobre, que c'est la seule et unique grande puissance du Moyen-Orient. Et on a bien vu d'ailleurs que M. Biden a réussi tour à tour à la fois à tordre le bras au Premier ministre Netanyahou, notamment sur les questions... des questions humanitaires dans la bande de Gaza, et en même temps, les États-Unis ont immédiatement averti toute autre puissance qu'ils défendraient Israël, et ils l'ont fait.
Et ils viennent de le redire, aujourd'hui.
Bien sûr,
ils viennent de le redire. Ils étaient de leur côté, qu'ils leur soutien inébranlable, puisque ce sont les termes utilisés. Ce sont des mots qui ont été prononcés encore aujourd'hui.
Absolument. Et sans même parler seulement d'Israël, les États-Unis sont la seule puissance hors Moyen-Orient. Je dis hors Moyen-Orient, mais ils disposent de plusieurs bases tout à fait fondamentales dans la région et de deux flottes de guerre. Supérieure à toutes les autres qui naviguent dans ces eaux-là. Donc sont les seuls à pouvoir, alors peut-être pas tout réussir, mais en tout cas orienter ici ou là telle ou telle politique. Et pour vous répondre concrètement, je le dis d'un mot, je pense que les États-Unis ont la volonté aujourd'hui de tenter la désescalade, notamment parce que s'il y avait une guerre de haute intensité entre Israël et l'Iran, eh bien, tout le Golfe serait touché, et notamment le fameux détroit d'Ormuz. Et je rappelle que
Intérêt économique majeur.
Absolument majeur pour l'Europe, pour la Chine, pour les États-Unis
le et pour
les
États-Unis. Parce que le pétrole.
En fait, pour le monde entier. Exactement.
À cause du pétrole. Joe Biden, à l'instant, assure vouloir éviter un embrasement au Moyen-Orient. Donc, c'est exactement ce que vous venez de nous expliquer. Les États-Unis ont-ils un pouvoir de dissuasion ?
Ils ont un pouvoir de dissuasion parce qu'ils disposent à la fois des carottes et des bâtons. Et ça, aucune autre puissance aujourd'hui, ou aucun autre pôle, je pense notamment à l'Union européenne, ne dispose de ces deux facettes. Lorsqu'il s'agit du processus de paix d'Oslo en 93, Clinton propose des carottes aux deux parties. Lorsqu'il s'agit en 1978 du traité de Camp David entre l'Égypte et Israël, les États-Unis proposent des carottes aux deux parties pour accélérer le processus de paix et finalement la signature de la paix. Et à l'inverse, les États-Unis ont à plusieurs reprises menacé à la fois Israël, mais l'autorité palestinienne aussi, notamment de sanctions économiques, alors pas militaires évidemment, mais de sanctions économiques qui ont pu être tout à fait déterminantes. Je pense notamment à 1991 avec le premier ministre israélien Yitzhak Shamir. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui, encore une fois, j'y reviens, ils ont la capacité de... Est-ce qu'ils auront la volonté d'essayer de forcer et en pleine campagne électorale, les uns et les autres
à la désescalade. Il y a un risque politique pour Joe Biden.
Il y a un risque politique majeur, mais ça, vous savez, c'est la vie politique américaine depuis la création de ce pays.
Alors, avec cette frappe de l'Iran sur Israël, ce qui est inédit, on le rappelle, depuis l'arrivée au pouvoir des Mollahs en Iran en 1979, est-ce que, selon vous, Frédéric Ancel, on est entré dans une nouvelle ère géopolitique ?
Eh bien, moi, je ne crois pas. Parce que voilà très longtemps déjà que je constate que ce régime, alors par ailleurs parfaitement immoral et fanatique, n'est pas pour autant un régime d'imbéciles. Et certainement pas sur le plan des rapports de force. C'est-à-dire que l'Iran a, jusque y compris ces dernières heures à mon avis, a toujours fait preuve d'un certain pragmatisme, d'une certaine prudence, je parle bien de la défense et des affaires étrangères, et notamment vis-à-vis d'Israël. En particulier, en envoyant les autres faire la guerre à leur place. Tout à l'heure on a évoqué le Hezbollah, les Houthis du Yémen et d'autres types de milices. Alors là, effectivement, pour la première fois, ils ont frappé le sol israélien. Je pense qu'un cap à la fois symbolique et géographique a été passé, mais pas un changement fondamental de paradigme.
Donc le verrou de la guerre psychologique n'a pas sauté, selon vous ?
Ah, pour moi, il a d'autant moins sauté que les Israéliens restent maîtres, en réalité, de la décision finale. Je veux dire par là que l'escalade ne peut pas, à terme, si elle devait malheureusement, ce que je ne crois pas, mais si elle devait prévaloir et si on devait arriver à ce que le stratège prussien du 19e Clausewitz appelait la montée aux extrêmes, l'Iran ne pourrait pas gagner. La dernière phase, la dernière marche de l'escalade appartiendrait à Israël et les Iraniens le savent très bien.
Vous avez entendu l'interview il y a quelques minutes de l'ambassadrice d'Israël en France qui était dans ce studio près de vous. La riposte est quasi certaine, c'est une évidence. Quelle forme peut-elle prendre ?
Alors moi, je pense qu'elle n'est pas quasi certaine, elle est certaine, parce qu'il en va de la crédibilité dissuasive d'Israël, qui par ailleurs a été écornée, hein, cette crédibilité, le 7 octobre. Donc l'état-major, le gouvernement et au fond la population souhaitent maintenir, en tout cas, à tout le moins, cette crédibilité dissuasive qui est un peu l'assurance-vie d'Israël au Moyen-Orient. Mais je ne crois pas à une riposte massive, aérienne, spectaculaire, revendiquée sur le sol iranien. Je pense, d'ailleurs, les États-Unis s'y sont opposés et les alliés arabes d'Israël, je dis bien les alliés arabes d'Israël, vous voyez, on n'est plus à l'époque de la guerre du Kippour d'il y a 50 ans, et pour cause, ne le souhaitent pas non plus, pas davantage que les Européens. Donc moi, je crois à une stratégie périphérique. C'est-à-dire que les Israéliens peuvent parfaitement accroître, augmenter, ils le font avec une certaine efficacité tout de même ces derniers mois, leur pression via des frappes ciblées sur des cibles alors iraniennes, mais au Liban ou en Syrie, ça s'est déjà produit, vous l'avez rappelé, le 1er avril, ou sur
c'est-à-dire
le Hezbollah.
Cibler le Hezbollah, par exemple.
Bien sûr, le Hezbollah, puisque c'est vraiment le proxy et c'est l'instrument au pouvoir entre les mains de Téhéran, d'ailleurs créé de toutes pièces par Téhéran en 82. Sur le Hezbollah, éventuellement sur les Houssis, mais enfin c'est un adversaire moins sérieux, et poursuivre, mais sans les revendiquer nécessairement, des coups de force qui sont attribués à Israël à tort ou à raison ces dernières années sur le sol iranien. Et notamment dans le domaine du nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens disent, je répète en deux mots, je le traduis en deux mots, ils disent, mais si ils ont la volonté et la capacité technique, même si ça n'a pas très bien marché cette fois-ci, de propulser des missiles sur Israël, qu'en sera-t-il lorsque l'un d'eux sera porteur d'une tête nucléaire? Et de ce point de vue-là, je pense que les Israéliens vont vraisemblablement, dans le cadre de leur riposte, pour vous répondre concrètement, cibler, mais sans le revendiquer, des coups de force auxquels ils sont déjà accoutumés, hein, sur le sol iranien.
La République islamique a appelé dès 1979 à la destruction d'Israël. Israël, après l'attaque du 7 octobre, a appelé à la destruction du Hamas. Est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage ?
On peut en sortir par un véritable processus de paix entre Israël d'une part, l'autorité palestinienne d'autre part, alors évidemment avec un autre gouvernement israélien, sans le Hamas évidemment, avec l'autorité palestinienne, hein, qui est la seule entité palestinienne légale et légitime en droit international. Mais à ce moment-là, l'Iran fera tout et ses proxys, notamment le Hezbollah, fera tout pour empêcher ce processus de paix. Et moi, je suis de ceux qui, alors peut-être assez optimistes, considèrent que aujourd'hui, nous avons, avec des États arabes modérés, l'Arabie saoudite et les Émirats notamment, avec l'autorité palestinienne qui semble enfin être prête à revenir dans la bande de Gaza, mais dans des conditions évidemment meilleures que celles qui prévalent aujourd'hui, et c'est le moins qu'on puisse dire. Avec un autre gouvernement israélien, celui-ci de toute façon, politiquement, il est en sursis. Bon. Et si tant est que, pardon d'ajouter cette cerise sur le gâteau, mais c'est pas encore sûr, si Biden devait être réélu, on a là toute une série des planètes, comme on dit, alignées sur un axe plutôt positif, et je pense qu'à ce moment-là, l'Iran et le Hezbollah ne parviendraient pas à casser une dynamique de paix dans la région.
Merci infiniment Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes auteur de « Les 100 mots pour la guerre » publié aux éditions PUF. Merci beaucoup.